Bonjour. Il est là, enfin, le sixième numéro de 12 degrés 5, la revue des libres buveurs. Et comme d'habitude, c'est un voyage en première classe. Au programme, en vrac, un superbe portrait de Didier Barral, vigneron à Faugères, un autre des frangins Adrien et Guillaume Pire au château de Fosse-Sèche dans le Saumurois, sans oublier Guillaume Sélos, le champenois, et Marcel Richaud, le pape de Kéran. On voyage et on apprend aussi beaucoup, par exemple sur l'histoire des fameux climats de Bourgogne qui nous ont occupés dans notre cycle précédent, sur la maison catalane Abel qui fabrique des bouchons de première qualité depuis 1936, et on comprend au passage qu'il en faut du savoir-faire et de la passion pour produire ce petit bout de liège si important dans la conservation du vin. On réfléchit aussi avec cet échange à deux voix autour des vins du futur. Textes ciselés, photos léchées, dessins drôles et poétiques de l'ami Michel Tolmer, on se laisse porter au fil de ces presque 180 pages qu'on peut lire absolument de bout en bout, ce qui n'est pas commun, convenons-en, dans la presse d'aujourd'hui. Tout cela et bien d'autres choses à découvrir dans la revue 12 degrés 5, le numéro 6, disponible chez tous les bons libraires. Ce 48e épisode se nomme « Qu'est-ce Syrah ? » Bienvenue dans la Terre à boire.
Vignoble, voilà, à cheval entre le Rhône, la Drôme, l'Ardèche. Il m'en manque un ou pas ?
La Loire.
La Loire. Ah là, il y a un peu de Loire, on a goûté un blanc du domaine Fayol, on a goûté un rouge du domaine Chambéron, et nous voilà sur une appellation nouvelle. D'abord, je vous présente autour de la table Laurent, Florence, Bertrand et Patrice. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonjour.
Et on est donc, j'étais en train de le dire, sur une appellation un peu moins connue, mais carrément beaucoup moins connue, on va dire, quand même. C'est toi qui nous as déniché ça, Laurent, parce que je suppose que tu le vends au Wine Therapy ?
Oui.
Ou pas ? Oui ?
Oui, oui.
C'est quoi cette appellation ?
Brézème.
Brézème.
Et oui, la plus méridionale des appellations du Rhône septentrional, pour faire simple.
D'accord, la plus au sud du Rhône Nord.
Tout à fait.
Que dire sur cette appellation Brézème et le vin qu'on a servi de Julien Montagnon du domaine
Lombard.
Lombard.
Ben moi, je pense que le plus simple, ça serait de laisser Julien en parler.
Voilà.
Alors, moi, tu sais, j'aime pas trop parler à la radio.
Mince alors, ça fait un an et demi qu'il fait un podcast. Tu sais quoi, Laurent, je vais te faire un truc, tu vas en parler pendant que je l'appelle.
Et toc. Non, pas
si,
ça.
Si, vas-y.
Non, ben, qu'est-ce que je peux dire de Brézème ?
Qu'est-ce qui te plaît dans ce vin ? Vas-y.
Qu'est-ce qui me plaît dans ce vin ? En fait, ce qui me plaît, c'est déjà de faire découvrir des appellations qui sont peu connues. C'est un peu, je trouve, l'essence de notre boulot, d'emmener des gens sur des territoires qu'ils ne connaissent pas. On parlait de Creuse-Hermitage précédemment, et il est clair que Creuse-Hermitage, aujourd'hui, c'est une appellation qui est à peu près sur toutes les cartes de tous les restaurants de France et de Navarre. Donc, et il y a à peu près tous les niveaux de qualité de Creuse-Hermitage. On en a parlé, hein, les coteaux, la plaine, ça ne donne pas les mêmes choses et pas les mêmes qualités de vin. Bon, bah, la Brézème, c'est une toute petite appellation qui a été laissée en friche pendant des décennies post-phylloxéra, où il était plus intéressant de faire pousser des arbres fruitiers dans les plaines que de s'emmerder à maintenir la vigne sur des coteaux très 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 pentus. Et donc il y a peut-être une trentaine d'années à peine que c'est relancé, que des gens se posent la question de savoir pourquoi on refait pas quelque chose sur ces coteaux qui sont magnifiques. Et Julien Montagnon du domaine Lombard, bah, est un peu un des chantres de l'appellation. Son enthousiasme, moi, me plaît, et j'ai envie de me faire l'écho de cet enthousiasme.
On l'appelle ?
Et donc bah oui, on va l'appeler.
L'impression d'être sur RTL. D'habitude, on coupe ce genre de moment. Peut-être qu'on va les garder cette fois. Allô ?
Allô ?
Oui, bonjour, Julien Montagnon ?
Oui, tout à fait.
Oui, bonjour, c'est Romain. J'anime le podcast La Terre à boire. Je suis avec Laurent.
Bonsoir,
Oui.
Julien.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, il n'y a pas que Laurent et moi, il y a aussi Florence, il y a Bertrand et Patrice.
Bonsoir.
Bonsoir.
Enchanté.
Et si vous êtes d'accord, je pense qu'on a quelques questions à vous poser pour parler de vos vins. On est en train d'en boire un.
Super.
Bon, la première question, parce que c'est celle que m'ont posé mes petits camarades, Julien, c'est pourquoi j'ai choisi Brezem? Donc, je leur ai expliqué que c'était parce que justement c'était très peu connu. Mais j'aimerais que toi, tu parles un petit peu de l'appellation, de cette grande entreprise que vous avez entamée il n'y a quand même pas si longtemps que ça pour redonner des lettres de noblesse à ce terroir.
Ouais, en plus, oui, parce que nous, ça fait 6 ans qu'on. Alors, en plus, moi, c'était un retour parce que c'est un lieu qui est juste à côté de la maison de mes parents. Donc, c'est 6 ans à l'échelle viticole, c'est rien. Et en même temps, on a fait pas mal de choses. Je pense que le plus simple pour expliquer un peu ce que c'est, faut déjà le situer géographiquement. Brezem, on est 25 km au sud de Valence. On est historiquement rattaché aux Côtes-du-Rhône Nord, mais espèce de parent pauvre des Côtes-du-Rhône Nord parce que de par l'histoire, ça a été un petit peu oublié, ça a été quelque chose un petit peu de caché, ce qu'on appelle un peu des vins de sommelier parce que il y a toujours eu un peu de vin qui a été produit là depuis 1900, mais qui a été plutôt distribution et commercialisation assez réduite. Si je veux faire résumer, on est là où la rivière de Rhône se jette dans le Rhône, donc on est sur un coteau assez pentu et qui est tout petit en fait, hein. C'est un coteau qui fait une soixantaine d'hectares et qui domine la rivière de Rhône, qui est une réserve naturelle à cet endroit-là, qui se jette dans le Rhône. Ça a été un haut lieu de la viticulture pendant presque 400 ans, 500 ans. On a les premiers écrits, c'est 1400. Autour du village perché de Livron, il y a des vignobles qui existent, qui a une vraie notoriété 1700, 1800. Les écrits un peu que les gens gardent, c'est qu'à l'époque, on échange une barrique de Brezem contre une barrique d'Hermitage. Voilà, c'est un petit peu le haut lieu et les faits d'armes du lieu. Et puis après arrive le phylloxéra, 1876, et ce coteau qui est fait de murs. Faut imaginer un coteau plein sud de pierres sèches qui surplombe cette rivière de Rhône, planté en vigne. Il y a un petit peu d'autres cultures, mais il y a beaucoup de vignes. Et puis bon, quand le phylloxéra arrive, les paysans abandonnent un peu la culture, descendent dans la plaine, vont faire du fruitier. Et quand l'INAO est créé début 1900, ben on dit aux gens de Brezem, aux gens de Livron, on leur dit, ben écoutez, vous savez quoi, on vous donne une tolérance. Donc on vous met dans le décret d'appellation Côte-du-Rhône, classique. Et puis on verra quand ça aura avancé. Donc les gens bricolent pendant longtemps, les paysans sont un peu descendus dans la plaine, on a quelques gens qui font des terroirs de bas de coteau, et puis voilà, et puis ça bricole, il y a des gens qui font quelques beaux vins milieu des années 80, milieu des années 90, et puis ben nous de retour, quand je dis nous, c'est moi et ma compagne Emmanuelle, quand nous on est de retour dans la région, on entreprend de redonner un peu l'aide de noblesse à ça, d'aller regratter un peu les terroirs les plus compliqués, mais les plus jolis sur le papier, et puis de replanter un petit peu ce qui était les plus beaux terroirs de Brezem.
Avec quelques convictions quand même, bio, levure indigène, biodynamie.
Ouais, alors ça se croise aussi un petit peu avec notre parcours. Voilà, moi je suis pas fils de vigneron, Emmanuel non plus et pas du monde agricole. Moi je suis plutôt originaire, voilà, j'ai diplôme de faculté en écologie, j'ai des diplômes en viticulture, en œnologie. Et c'est vrai que quelque chose qui a toujours traversé un petit peu notre pensée, c'est comment on arrive dans une bouteille de vin à donner l'image à la personne qui va le boire du lieu d'où vient le vin, d'où vient le raisin. Comment il y a cette espèce de filiation entre du raisin qui pousse sur une vigne, enfin, c'est tout simple, mais voilà, quoi, une vigne elle peut pousser n'importe où, elle fait des raisins, puis on fait du vin avec. Et comment dans une bouteille, dans un verre in fine, ça donne la vision de la personne qui va le déguster, qu'elle soit à 10 km ou à 1000 km, qu'elle soit à New York ou à Paris ou juste à côté, comment dans le vin elle peut ressentir. Et c'est vrai que l'un des outils que nous on a toujours pressenti, c'était déjà l'agriculture biologique qui était un espèce de préambule à tout ça. Et puis la biodynamie aussi, où souvent, bon, alors elle est souvent mal expliquée, mais elle est un espèce d'outil, c'est une clé à molette, quoi. Donc c'est comme une clé à molette. Une clé à molette, si on essaye de planter des clous avec, ça marche pas. Mais si elle sert à ce qu'elle doit servir, ça sert et ça permet de donner quelque chose de plus fin. Donc ouais, c'est vrai. Mais après, c'est des choses que nous, on vit d'une manière assez intime. Ça veut dire que, voilà, c'est un outil que nous, on utilise. Pour nous, ce qui est important, c'est in fine ce qu'on produit et ce qu'on donne aux gens. Et après, on espère que la clé à molette, on s'en est pas servi comme marteau, quoi.
Et là, on est en train de déguster... Raspan, ta cuvée Raspan 2015. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de la façon dont tu la travailles?
Ouais, alors en fait, Raspan, c'est parce que donc ce coteau est dominé par une tour. Alors, là aussi, c'est un peu d'histoire. Hein, nous aussi, pour rénover cette appellation et puis la rebâtir, et c'est un mélange entre l'histoire aussi, parce qu'il faut travailler sur l'histoire, parce que la viticulture, c'est toujours un truc qui m'a intéressé, c'était aussi l'histoire. Donc il y a une tour qui domine. Cette tour, elle s'appelle la tour de Raspan. Son nom, la légende, c'est la tour du diable, parce qu'il y a une légende autour. Mais donc, voilà, cette tour, c'est le tour de Raspan. Et donc, en dessous, il n'y avait plus de vignes. Il n'y avait plus de vignes depuis 100 ans. On a commencé à refaire les murs en pierre, à replanter. Donc, là, le côté biodynamiste, on a travaillé sur des vieilles variétés de Syrah, aller chercher avant les clones, chercher les variétés qui étaient adaptées pour ce coteau-là. Et donc du coup, il y a 6 ans, on a commencé à replanter. Et en 2015, ce que vous goûtez, c'est le premier. Donc c'est des très jeunes vignes, c'est des vignes qui ont 4 ans. Et c'est les premiers millésimes de ces jeunes vignes, donc des origines génétiques variées et divers qu'on allait chercher. Donc c'est des Syrah, mais variés et divers qu'on allait chercher partout dans le Rhône-Nord pour replanter, pour les mélanger, pour redonner une pluralité, on va dire, un petit peu génétique de tout ça. Et sur des plus beaux terroirs. Et après, comment nous on travaille, on aime toujours le travail en grappe entière, ça veut dire qu'on fait jamais, ça va être un peu pointu, mais voilà, c'est pas des macérations carboniques comme on peut trouver dans le Beaujolais, donc ça va pas être des macérations carboniques, mais ça va être des vinifications où on utilise la totalité, donc la rafle et les baies. Et comme c'est des beaux terroirs, nous on aime bien l'élevage en 2 temps, ça veut dire que c'est en 2 ans les élevages, ça veut dire que c'est une première année qui sont élevés dans des grands contenants en bois, donc des demi-muits, des 600 litres, puis après on fait 1 an en béton, puis après on met en bouteille, et ce qui permet d'avoir les vins qui ont du temps. La viticulture, moi c'est toujours été aussi des choses qui nous ont passionnés, c'est qu'il y a des choses, tu peux essayer de raccourcir le temps de fabrication des vins, de genèse des vins par des aspects technologiques, mais in fine, quand même, le temps reste le temps et on peut essayer de changer des choses, le temps reste le temps. Et donc, ces 2 ans d'élevage permettent d'avoir des vins sans filtration, des vins sans collage, des vins qui se stabilisent tout seuls parce que le temps aura fait son œuvre, les 2 hivers, les 2 coups de froid qui ont permis de sédimenter, de faire des soutirages, d'avancer. Et donc, du coup, voilà, c'est des vins qu'on fait assez simplement où... on va plutôt utiliser le temps plutôt qu'autre chose. Donc voilà, une première année en demi-muit, puis une année en béton, et après une mise en bouteille sans filtration. Avec des vins où on essaye de, quand on les vinifie, on est là comme des... Moi j'aime bien l'idée d'élever les vins au sens comme des parents. Ça veut dire qu'on met une limite à droite, on met une limite à gauche, on laisse les vins... vivre à droite, à gauche. S'il se passe quelque chose, on est là en surveillance. Donc on vient corriger si ça part trop à droite, si ça part trop à gauche, mais on les laisse naviguer dans ça, et puis les deux ans font qu'après ils se stabilisent tout seuls, et après on peut livrer des vins. Ce que j'ai pas dit, c'est que c'est des vins de... c'est des terroirs de calcaire. Donc en fait, on est sur un coteau qui est issu du Crétacé, donc c'est des marnes calcaires, donc dans le Rhône-Nord, c'est un peu unique. On a quelques bouts des Saint-Joseph qui sont en calcaire, nous on a un seul terroir de calcaire, qui fait que même si on est le plus au sud du Rhône-Nord, c'est pas pour ça qu'on a les vins les plus solaires. Ces espèces de vins calcaires, ces terroirs calcaires sont des vins un peu de calcaire, qui ont des notes un petit peu crayeuses, un petit peu florales. Donc du coup, on est plutôt là pour essayer de protéger un petit peu ces arômes-là.
Okay. J'ai une question sur cette bouteille-là en particulier. C'est bien noté sur le site, 50% Syrah, 50% Serine. Il y a une vraie différence entre les deux cépages ?
Bah en fait, il y a une vraie différence morphologique. Après, elle est ténue. Hein, on pourrait, dans les discours entre experts, on pourrait discuter. Mais grosso modo, si on fait la genèse de la Syrah, son ancêtre, c'est la cerise. Ça veut dire qu'on avait... La Syrah, maintenant qu'on a séquencé un petit peu les génomes des cépages, on sait un petit peu que la Syrah, c'est plutôt l'arrivée de cépages un petit peu savoyards qui se sont croisés avec des cépages un petit peu de Haute-Ardèche et qui ont fait la Serine, qui était un cépage avec des petites baies et plutôt un cépage de coteaux et vraiment de terre très pauvre. Et puis, les sélections, les croisements, la vigne, c'est une liane, donc elle a une grosse capacité à se croiser. On a plutôt sélectionné des choses qui des baies plus grosses, et donc du coup on est arrivé à la Syrah. Et en fait la Serine, c'est un peu son ancêtre, où on a des Syrah de coteaux avec des baies plus petites, des grappes plus lâches, où les baies se tiennent moins. Et donc il y a une vraie différence morphologique. Mmh. Et nous, dans ce qu'on arrive à planter, les grands des côtes rôties nous font une petite place où on a le droit d'aller gratter un peu dans leur... Ils ont une espèce de conservatoire de vieilles Syrah qu'ils appellent cerises. Et nous, on a le droit d'aller un peu gratter et d'aller un peu prélever des bois. Donc... la vigne, nous on a le droit, ce qu'il faut savoir c'est que souvent quand on lit dans la presse que les semenciers ont plus le droit de reproduire leur vieille semence et ainsi de suite. Moi ça fait longtemps, j'avais écrit un article là-dessus. Nous la vigne, on a encore le droit de multiplier des vieilles origines génétiques et de les replanter, et ça ne nous est pas interdit. Et donc du coup, grâce à ça et grâce à une petite corporation où on s'échange tous, vignerons français ou internationaux, on arrive à s'échanger un peu ce qu'on appelle des bois, ça veut dire des bois de taille où on les greffe et on les multiplie. On arrive à multiplier un peu des vieilles variétés qui datent de 100, 250 ans. Et donc du coup, nous on en capte un morceau, et dans le boulot qu'on a aussi, et ça je le rapporte aussi à notre activité en étant certifié chez Biodivin et en étant donc biodynamiste, voilà, on essaye de sauvegarder ça et de perpétuer certaines choses et certaines origines génétiques.
Est-ce que pardon pour les parallèles, mais est-ce que c'est un petit peu le rouge de Brézem? Est-ce que ça ressemble pas un peu au Cornas, mais avec un sol calcaire?
C'est souvent la question. Nous, on a une grande distribution avec les sommeliers, mais c'est souvent une discussion. Est-ce que Brézem, c'est un Cornas sur des calcaires? Est-ce que c'est un super Saint-Joseph? Est-ce que c'est un sous-hermitage?
D'abord, c'est un très joli vin, votre vin. Voilà, j'ai envie de dire ouais. Ça.
Ah, mais après, c'est je pense que ça sera le but de notre carrière, c'est que d'expliquer un peu que dans le Rhône-Nord, les grands terroirs, on a Cornas, on a les grands Saint-Jour, on a les grands Hermitages, mais même on a des grands Saint-Péret, tout ça. C'est bizarre, mais on est sur... Moi, j'ai pas mal de copains, et puis même une des personnes importantes pour nous, le fait qu'on est devenu vigneron, est un vigneron de Cornas. On est à peu près sur la même tête de terroir, entre guillemets. Ça veut dire voilà des pentes abruptes, des endroits où il n'y avait rien qui pouvait venir à part la vigne, et puis des générations de gens qui ont fait des petits bouts de murs de pierre et qui ont planté des vignes et qui ont planté des raies de vigne et puis qui ont fait du vin avec, quoi. Et après, notre génération, ça sera de replanter et puis aussi d'expliquer que voilà, il y a des grands vins sur Cornas, c'est des espèces d'arènes granitiques, donc on est plutôt chaleureux. Et puis un peu plus au-dessus, il y a des belles arènes à Saint-Jean. Et puis après, il y a de l'autre côté du Rhône, il y a il y a la colline de l'Ermitage avec les sols identifiés de tout ça. Et puis il y a Côte-Rôtie et puis il y a Brézène. Donc voilà, il faudra, nous, notre génération, elle construira le « et puis il y a Brézème ».
Exactement, on est en train vous êtes en train de pointer Brézème sur la carte des Rhônes-Nord, qui n'est pas une appellation la plus qui vient tout de suite en tête, mais voilà, c'est par ce travail-là, dans la continuité, dans la durée, puis par les jolis vins que vous proposez, que ça se construit, ça va forcément arriver avec du temps et de la patience.
Vous êtes combien de vignerons sur Brézème, là?
Alors, si on compte, alors c'est très particulier parce que en plus ça mute à la vitesse grand V parce que le Rhône Nord était un peu très compliqué, mais bon, si on compte, on va compter 8 personnes sur Brézème qui font des Brézèmes. On a grosso modo quelques personnes qui sont on va dire comme dans la Bourgogne il y a 20 ans, donc ça veut dire que il y a plein de tout petits qui font une cuve de vin coincée entre la voiture et la moto dans le garage.
Ben ça va, l'avenir est radieux, alors, si c'est comme la Bourgogne il y a 20 ans.
Ouais.
Tout va donc, bien se passer.
Donc il y a ça, il y a quelques personnes. Ce qu'il faut réellement savoir sur Brézème, c'est qu'il y a une vraie cote internationale. Il y a le Wine Advocate, tout ce qui commence par Wine et qui est le magazine américain, voilà, Wine Spectator et ainsi de suite. Tout ça note depuis très longtemps et sont un gros public. Les Américains sont un gros public de Brézème, donc il y a quelques personnes qui font peu de vin mais qui sont à 99% distribués sur New York et Los Angeles.
Ah oui.
Et puis nous, c'est un très gros marché. Nous, on travaille avec une cinquantaine d'étoiles Michelin en France, mais on a une très grosse distribution aux États-Unis parce qu'ils ont toujours été friands de ce petit. Eux, ça les intéresse, ces espèces de trucs anachroniques chez les Français où ils ont les appellations, et au milieu, ils ont un truc qui est quelque chose à part les appellations.
Donc, c'est niche.
Exactement. Et puis on a vu arriver, je suis un peu obligé, du moins la presse commence à en parler, on a vu arriver un très gros qui vient de faire une acquisition sur Brézème, donc les Perrin Beaucastel,
oui.
Châteauneuf, viennent de faire une acquisition par leur antenne, viennent de faire une acquisition où il y a peu de choses en production, mais il y a beaucoup de belles choses à faire, et donc ils ont fait une acquisition l'été dernier.
Bon, mais l'avenir est radieux pour Brézème. Merci beaucoup, Julien Montagnon.
Merci
pour ce vin et puis de nous en avoir parlé comme cela. On peut déguster votre vin, donc Wine Therapy.
Ça commence par Wine aussi.
Notre ami Laurent. Tous les endroits branchés où on boit du vin, on trouve du Brézème, tu vois, Laurent.
Exactement.
Avec ta clientèle internationale. Merci beaucoup,
Julien.
Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Un très joli vin, effectivement.
Ouais.
Très chouette. C'est une note épicée, sa fraîcheur. Les notes épicées, la fraîcheur, le côté peps du vin était très agréable.
Une Syrah très différente de celle qu'on a dégustée.
Puis on sent qu'il y a de la matière, on sent que c'est biologique, quoi, il y a de la matière. Et puis c'est riche en bouche, on mange en même temps qu'on boit. Quoi.
Non, sur mais le Brézème, tu veux dire? J'ai trouvé ça quand même assez frais, assez croquant.
Non, mais c'est
j'ai aimé le côté gouvéillant du vin.
Encore une fois, j'arrête avec ça, mais c'est ce que disait Pierre Auvernois des vins nature. C'est qu'en même temps, on mange, quoi. C'est de la nourriture spirituelle.
C'est des très jeunes vignes, en fait.
Attention, parce que Julien conteste sur le site internet conteste le terme de nature.
Je n'ai pas dit nature, j'ai dit biologique.
T'as dit vin nature.
Ah non.
Si, t'as dit vin nature.
Ça tombe bien, c'est enregistré.
On entendra.
On vérifiera. On vérifiera.
Non, non, mais ils font tout bio, biodynamie. Ils disent qu'ils mettent pas de soufre, sauf de temps en temps quand c'est nécessaire. Mais ils contestent le côté nature parce qu'ils disent qu'il y a des gens qui se concentrent uniquement sur l'absence de soufre, ouais, le taux de soufre pour qualifier les vins. Ouais. Et ils disent non, c'est pas ça.
Moi, j'aime bien le discours de Julien. Vraiment, je suis très, très fan de... Absolument. De sa passion, de
ouais, chers amis, envie d'y aller, hein, parce que
entre temps,
et c'est très beau. Ouais.
On doit finir parce que pour une fois, on est un peu pressé. Il va falloir qu'on rende le studio. Voilà, je le dis. Il nous reste un dernier vin à goûter et c'est un Colombo.
Ouais, c'est pour finir. Oui. Alors,
Colombo de poulet.
Rien à voir avec l'enquêteur américain, avec Peter Falk non plus.
C'est un Cornas, à vrai dire. Mais Cornas, du domaine, voilà. Colombo.
Exactement. En 2012, donc il a un petit peu de vieillesse, NCRA, donc solaire sur des terroirs granitiques, c'est ce que nous a dit juste avant Julien Montagnon. Et voilà, donc effectivement, c'est.
Qu'est-ce que vous en dites?
C'est une appellation qui fait 110-120 hectares. C'est une appellation qui fait 110 ou 120 hectares. Et qui effectivement est une micro-appellation qui a beaucoup monté en ces dernières années, avec Clap, le domaine du tunnel, mais c'était assez peu connu. C'est une expression assez riche, on va dire, de la Syrah. C'est le plus au sud de ce qu'on considère comme le septentrional historique.
Par Brézem.
Donc c'est le plus proche de Valence. Il faut savoir, Brézem est au sud de Valence. Hein, c'est la seule qui est septentrionale et au nord de Valence. C'est pour ça que je parlais de Montélimar tout à l'heure. C'est entre Montélimar et Valence, alors que là on est encore au nord de Valence, mais c'est le plus au sud, on va dire, du septentrional connu, historique. Et c'est des vins assez riches, aussi héroïques dans leur conception, avec des terroirs abrupts et verticaux, et assez difficiles aussi à travailler en biodynamie. Et au Colombo, c'est un domaine un peu connu maintenant, qui a fait beaucoup, beaucoup de volume, qui fait 35 hectares, qui a toujours quand même travaillé en raisonné, et la FI a repris depuis 2011 l'ensemble des vinifications, donc je pense que c'est une de ses premières vinifications. C'est prisé Colombo et FI, hein, d'ailleurs, sur l'étiquette, en 2012 sur le domaine.
Qu'en dites-vous de ce vin?
Alors, et dernière chose, j'ai pris ce vin-là d'abord parce que je l'avais, ensuite parce qu'il est un peu vieux, mais ça reste un Cornas qui est à moins de 30 euros, et ce qui n'est pas si courant maintenant sur les Cornas.
Les Cornas sont énormément augmentés. Ouais, c'est passé à plus de 50 euros. C'est devenu presque aussi cher que les côtes rôties.
Exactement. Et donc là, on reste encore une fois, c'était aussi dans le cahier des charges, mais on reste encore une fois entre 25 et 30 euros sur ces vins-là.
Rapidement, un avis sur ce vin, description, l'exercice.
Ah, par rapport au Brézem,
des sommeliers. Par rapport au Brézem, par exemple, qui est, si j'ai bien compris, quelques kilomètres un peu au sud, c'est également une pure Syrah, cette marque de fabrique du Rhône-Nord.
Bah là, on a beaucoup moins le côté fruité qu'on avait sur le Brézem.
Tout à l'heure, on avait vraiment l'impression de croquer dans une grappe, comme on dit.
Un côté très croquant, très fruit, très frais. Les notes épicées sont un petit peu plus puissantes, c'est un petit peu plus patiné aussi. Je pense qu'il y a l'effet millésime aussi qui doit jouer là-dessus.
Il y a un côté un peu fumé aussi, et surtout, moi je suis assez marqué par la réglisse, qui est aussi un arôme assez caractéristique de la Syrah, qui évolue un petit peu.
Ça s'exprime beaucoup en Cornas.
On a beaucoup de concentration, là, beaucoup plus effectivement que sur le précédent.
Est-ce que ce plus de puissance veut dire plus de durée dans le... On peut le garder plus longtemps, par exemple,
Non.
Pas spécialement, non?
Bah, il y a deux choses qui tiennent le vin dans la durée, c'est l'acidité et les tanins. Donc, parce que...
C'est pas si tannique, en fait, là, ce qu'on voit.
Non, c'est pas si tannique.
Bah, c'est une Syrah. Non, mais après...
C'est pas spécialement tannique en nature.
Non, mais Cornas a longtemps été réputé faire des vins vraiment très, très massifs, voire rustiques. Et bien sûr, avec... comme beaucoup d'autres appellations, est en train d'évoluer vraiment sur plus de fraîcheur, sur plus de finesse. Ouais, et d'y aller moyen, un peu plus mollo sur les extractions et sur les tanins. Ouais.
C'est un peu la souplesse aussi de la Syrah qui permet de faire les deux. On peut faire des vins très puissants, on peut faire des vins un peu plus légers en fonction du travail du vigneron.
Oui, c'est vrai, c'est un cépage très très polyvalent et c'est aussi pour ça qu'il a une super carrière internationale. C'est qu'effectivement, il peut s'adapter à pas mal de choses. Après, t'en feras jamais un vin super light. Hein. Parce que par sa composition, c'est quand même un cépage qui va donner des vins assez colorés et assez riches. Après, plus ou moins, mais ça fera jamais du light. Quoi.
En tout cas, c'est très agréable. Hein. Tout ce qu'on a bu là, ça se boit sans soif, comme on dit.
En même temps, c'est trois expressions très différentes de la Syrah. Hein,
c'est vrai qu'ils ne se ressemblent pas.
Ouais. Trois choses très différentes.
Bah, c'est ça qui est chouette dans le nord de la vallée du Rhône. On n'arrête pas de dire que... Que la France, c'est tout petit,
c'est tout machin. C'est peut-être qu'une seule sous-région, mais finalement, chaque appellation une typicité qui lui est propre et un style vraiment différent.
Avec en plus le travail du vigneron qui va...
Et les étrangers nous regardent toujours avec des grands yeux en disant « Mais pourquoi vous prenez la tête à faire une appellation qui fait 10 hectares et une autre qui en fait 20 ?»
Bon, parce que...
Parce qu'ils sont vraiment différents en fait.
Ben voilà, on va finir là-dessus. Merci Bertrand d'être venu pour ce cycle.
Avec plaisir, merci Bernard.
Nord, merci Patrice, merci Florence et merci Laurent. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux vins. On n'a pas encore décidé, comme à chaque fois, Il va falloir qu'on en parle. Il en reste des cases à cocher. Hein. Il y en a de moins en moins.
On va décider en finissant les bouteilles, ça va être sport.
C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Je retiens ça.
Le bon brainstorming.
Allez, salut.
Merci
à bientôt tout le monde. Ciao.
Bonsoir.